Charles Kabilic, bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Vous êtes le patron de Green Aerolease à Brest, une entreprise française qui veut décarboner le transport aérien. Alors, en entendant la polémique déclenchée par la déclaration de l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, et par le rire de Kylian Mbappé qui s'en est suivi, j'ai eu envie de vous inviter car une solution se profile entre le jet privé très polluant et le char à voile. C'est l'avion électrique. Le premier vient d'être autorisé à voler dans l'espace aérien français. C'est le Pipistrel Velis Electro. Vous en avez commandé 50 exemplaires plaire aux Slovènes qu'il fabrique. Vous pouvez nous le décrire ?
Alors, à ce stade, c'est un avion de formation et de loisirs. C'est un avion 2 places, 100% électrique. C'est une première mondiale qui est européenne, donc on peut être fier de nous. C'est un constructeur slovène qui s'appelle Pipistrel qui a réussi à certifier cet avion auprès de l'EASA, l'organisme européen de certification. Et cet avion, on en a commandé 50, on en a d'ores et déjà livré un peu plus de 30, dont plus de la moitié sont en France. Brest était le premier à recevoir cet avion électrique il y a maintenant un an, et avec des usages assez incroyables, parce que ça va de la formation initiale des pilotes au vol de loisirs ou au baptême aérien, en passant par l'armée danoise qui en a commandé 2 pour former les pilotes danois et pour voir comment on peut utiliser ce genre d'avion pour de la surveillance aérienne. Donc voilà, c'est une première, c'est le tout début d'une grande série, puisqu'il y a une trentaine de projets à peu près dans le monde aujourd'hui d'avions électriques, hybrides ou hydrogènes.
Oui, parce que c'est un biplace, vous l'avez dit, mais plusieurs modèles d'avions allant jusqu'à 12 places, pouvant donc accueillir toute une équipe de football, sont en projet pour l'année prochaine. Hein. Vous vous y intéressez également, j'imagine.
Il y a un avion qui devrait voler ce mois-ci, qui s'appelle Alice Aviation, qui fait 9 places, 100% électrique, dont d'ailleurs la coque a été construite à Vannes par une société qui s'appelle Multiplast. Il y a d'autres projets d'avions 9 places également, il y a Tecnam, Pipistrel prévoit un 19 places hydrogène, Aura Aero, qui est une société toulousaine, prévoit également 19 places. Donc tout ça, ça va arriver, mais ça va arriver le temps de le certifier concrètement en 2024-2025 pour tout ce qui est, je vais dire, du transport régional ou interrégional décarboné.
Interrégional, ça veut dire quel rayon d'action et à quelle vitesse en moyenne ?
Alors les avions qui se présagent aujourd'hui ont des autonomies d'environ 500 nautiques, c'est-à-dire à peu près 800 km, à une vitesse de 450 à 600 km/h. En tout cas, ce sont les spécifications qui sont aujourd'hui annoncées. Alors, il faudra voir avec la certification et est-ce que ça va se maintenir. Sachant qu'on a quand même des très grands espoirs sur l'amélioration des batteries. Parce que nous, depuis un an et demi maintenant qu'on travaille avec Pipistrel, on a déjà vu progresser les batteries de manière très significative, à peu près plus 15% d'autonomie là, sur l'année qui vient de s'écouler. On attend un progrès d'à peu près 40% de l'autonomie des batteries sur les 18 prochains mois. Donc ça veut dire que le temps de certifier ces avions, les batteries auront aussi évolué. Et on va avoir des autonomies qui vont être de plus en plus importantes.
Est-ce que la révolution de l'avion électrique pourrait un jour concerner les gros porteurs ?
Alors c'est très peu probable. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que jusqu'à 20 places, l'avion électrique, 100% électrique à batterie, peut fonctionner. Après, on a un souci de lié au poids et à la densité des batteries. Donc, sauf à avoir un choc technologique ou une évolution significative sur les batteries, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que Elon Musk a annoncé sur Tesla viser des batteries à titre solide qui pourraient augmenter la densité par 4. Donc, si effectivement on réussit à augmenter la densité par 4, là, on pourra aller sur des beaucoup plus gros porteurs. Mais à ce stade, on est limité à 19 places environ. Entre 19 et 100 places, on pense qu'il y a une fenêtre pour les avions hydrogène, parce que l'hydrogène est parfaitement adapté pour des véhicules un peu plus gros et ça pourrait être une solution pertinente. Il y a déjà des tests aux États-Unis, pour donner un exemple. Zero Avia a fait voler un avion, un grand caravane, alors c'est un 9 places, converti 100% électrique. Et toujours aux États-Unis, on a une conversion d'un avion de type ATR en hydrogène de la même manière et qui faisait 72 places. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place autour de l'électrique, autour de l'hydrogène, avec des avions neufs, bien sûr, mais aussi avec des conversions. Parce que finalement, le vrai enjeu, c'est neuf, mais c'est surtout de convertir la flotte existante et de lui permettre de se décarboner. Les avions, ça coûte très cher à acheter. Ça a une durée de vie beaucoup plus importante qu'une voiture. La durée de vie moyenne d'un avion, c'est 40 à 45 ans. Donc il va falloir réussir à transformer toute la flotte si on veut décarboner rapidement.
Restons sur l'électrique, on ne fait plus le plein de kérosène qui lui est très polluant et hors de prix. Comment on fait pour recharger ?
Alors la recharge est un vrai sujet, hein. C'est exactement comme pour les voitures. Dans un premier temps, ce qu'on imagine, en tout cas pour l'activité de transport, c'est que l'électrique sera tout à fait adapté pour faire des petites lignes aériennes régulières ou des déplacements interrégionaux. Parce qu'avec 800 km d'autonomie, si on a juste un chargeur au départ, on peut faire des allers-retours concrètement à peu près de 300 km à la ronde. Si ensuite on installe des chargeurs grande vitesse sur les aérodromes de destination, là on peut très facilement faire de la ligne régulière. Donc moi je suis aussi propriétaire d'une compagnie aérienne hein, qui s'appelle Finistère, qui est une toute petite compagnie aérienne, qui fait la plus petite ligne de France, puisque c'est du Brest-Ouessant. Et typiquement, ce genre de ligne, on peut la décarboner intégralement. Vous imaginez un Nantes-Belle-Île ou un Nantes-Île-Dieu, par exemple. C'est le genre de ligne qui se prête parfaitement bien à l'électrique. Et ça va arriver très, très vite.
On fait une pause, Charles Kabilic. On se retrouve juste après, parce qu'on va parler du prix. C'est beaucoup, beaucoup moins cher que de prendre un avion thermique. Hein.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Charles Kabilic, le patron de Green Aerolease à Brest, qui vient de commander 50 exemplaires du premier avion électrique autorisé à voler dans l'espace aérien français, le Pipistrel Vélis Electro. On l'a dit, pour l'instant, c'est un biplace, mais très vite, il y aura beaucoup plus de place que ça. On pourra faire monter toute une équipe de football. Il n'y aura plus besoin de polémiquer. Alors, première chose, un avion électrique, le premier avantage, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Hein, on a l'impression de monter dans un planeur. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'il coûte beaucoup moins cher à l'achat qu'un avion traditionnel. Votre Pipistrel Vélis Electro, il coûte 200 000 euros à peu près, c'est-à-dire deux fois moins cher qu'un Cessna 182. Alors le Cessna 182, il est à 4 places, mais il est beaucoup moins cher aussi que le jet privé à réaction le plus abordable. Le Vision Jet, c'est 1 250 000 euros. Alors lui, il prend 5 passagers, il va à 550 km/h. Mais enfin, on voit bien, c'est le début.
Alors exactement. Alors, on n'imagine pas tant que ça d'avoir d'économies à l'achat. Les économies, elles vont plutôt être sur l'exploitation. Parce qu'à l'achat, on voit bien que le coût des batteries, le coût de l'innovation, fait qu'au tout début, en tout cas, on va avoir des coûts d'investissement qui vont être relativement élevés. Par contre, les coûts de maintenance sont quasiment réduits à néant, puisque un moteur électrique, ça ne s'entretient quasiment pas. Des batteries, ça ne s'entretient pas du tout. C'est juste de la surveillance. Donc, concrètement, et le rechargement de l'avion coûte relativement peu cher également. Donc, on imagine avoir des avantages, en tout cas des économies de l'ordre de 30 à 40%, voire potentiellement 50% sur les coûts d'exploitation des avions.
Ne serait-ce que parce que le plein de kérosène, c'est hors de prix. Hein.
Alors le plein de kérosène, c'est hors de prix. Et puis on imagine que ça ne devrait pas aller en s'améliorant. Et le deuxième impact, c'est aussi que l'avion électrique, si on réussit à le faire voler le plus possible, c'est que les frais fixes d'investissement en fait, vont être amortis. Et donc, on va pouvoir tirer un prix marginal, entre guillemets, qui est très, 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 très faible. Donc, si on veut faire, par exemple, de la rotation ou de la navette, typiquement, c'est absolument idéal. Imaginez, je vous reprends un exemple des îles, par exemple, une navette qui, à longueur de journée, fait des allers-retours pour aller en Corse, à Belle-Île, à Lille-Dieu ou ailleurs. Vous allez pouvoir économiser non seulement du carburant d'avion, mais surtout du carburant de bateau, qui sont quand même aussi très impactants d'un point de vue écologique. Et comme vous le disiez, le gros avantage de cette nouvelle technologie, c'est que le bruit est divisé par 14 environ. Aujourd'hui, le Vélis Electro est 14 fois moins bruyant que le DR400 équivalent qu'il y a aujourd'hui en aéroclub ou en école de formation. Donc ça, c'est un vrai impact positif pour les riverains.
Mais restons sur le prix, ça va se démocratiser parce qu'on va tous être tentés de prendre l'avion. On trouve ça bling-bling aujourd'hui, mais à, je sais pas, 125 euros de l'heure, c'est proche des tarifs pratiqués par les taxis-motos.
Oui, alors le 125 euros de l'heure, c'est pour un avion qui est un avion de loisir. Donc on sera forcément sensiblement plus cher pour un avion de transport qui devra aller un peu plus loin et qui devra voler aux instruments, c'est-à-dire dans toutes les conditions météo. Mais c'est vrai qu'on va se rapprocher, en tout cas, du coût du déplacement réel de la voiture et du train. Parce que quelque part, il y a une aberration aujourd'hui quand on parle des moyens de transport. Quand on parle du train, on ne parle que du train électrique. On ne parle jamais des lignes secondaires. Il y a 42% du réseau ferré français qui est encore au fioul aujourd'hui. toutes les lignes transversales sont, ne sont pas encore électrifiées. Et ça coûte une fortune de les électrifier. Et on ne parle jamais non plus du fait qu'il faut renouveler les rails, les voies, le ballast, et ainsi de suite. Quand on parle de voiture, c'est pareil. On ne parle que de la voiture. On ne parle jamais de la route et de l'usure de la route, qui est un bien public payé par nos impôts. Demain, sur de l'aviation électrique décarbonée, on n'a aucune infrastructure. Un terrain d'aviation, c'est un ruban de route qui fait 600 mètres à 1 km pour un avion relativement léger. Donc ça veut dire que quand il vole, il va en ligne droite, il ne s'arrête pas au feu, il consomme très peu d'énergie, parce que l'énergie qu'il consomme, c'est pour monter, mais une fois qu'il est en haut, c'est très faible. Donc moi, j'ai la conviction que l'aviation légère va être relativement rapidement le moyen de transport le plus écologique qu'on puisse avoir et le moins impactant en termes de nuisances à la fois sonore et à la fois carbone sur nos environnements. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Et puis, je dirais un dernier mot là-dessus, c'est que l'opportunité, elle est aussi sur la démocratisation de l'accès à l'aérien et sur le désenclavement de nos régions. Parce que clairement, aujourd'hui, le transport facile, c'est quand même l'apanage des grandes villes. Quand on est dans une ville de taille moyenne ou une petite ville, on n'a absolument pas accès à une offre de transport adaptée. Vous êtes à Auxerre ou dans le Massif central, c'est très compliqué. Avec ce genre de nouveaux moyens de déplacement, vous rendez beaucoup plus attractif des territoires qui ne l'étaient pas et vous allez permettre aux Français de vivre et de travailler là où ils sont bien. Et en tout cas, moi, je pense que c'est ça l'enjeu principal de demain.
Un dernier mot, Charles Kabilic. Et les taxis volants silencieux, tout électriques, pouvant décoller et atterrir à la verticale et sans pilote, qui devraient révolutionner le transport dans les grands centres urbains. Deux modèles avaient été dévoilés au Salon du Bourget en 2019. Il y a un projet censé voir le jour à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Est-ce que vous savez où ça en est?
Alors nous, on suit ces projets-là également d'assez près. Alors c'est vraiment très, très pris au sérieux, parce que la réglementation est quasiment déjà écrite au niveau européen. Il y a des projets qui volent, puisque Volocopter vole déjà aujourd'hui en prototype. Lilium également fait des choses intéressantes. Il y a eu environ 10 milliards de dollars investis dans des projets d'avions décarbonés et d'avions à décollage vertical, ce qu'on appelle les eVTOL, les fameux eVTOL. Après, la vraie difficulté pour moi, ça va être la capacité d'accepter d'avoir des objets volants au-dessus des villes, à l'instar de ce qu'on accepte pour les hélicoptères. Mais c'est un marché, c'est un nouveau marché. Typiquement, pour aller aux aéroports, ça pourrait tout à fait avoir du sens de partir du périphérique de Paris et de pouvoir aller à Roissy ou à Orly très rapidement. Les rayons d'action sont très limités, mais l'intérêt, c'est le périurbain.
Merci Charles Kabilic. Je rappelle que vous êtes le patron de Green Aerolease à Brest, une entreprise qui veut décarboner le transport aérien. Merci encore. On fait une pause. On se retrouve juste après avec Alice Zeniter. On va parler de la fiction et de la place des femmes dans la fiction.